Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En Terre de Couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Oscar-Claude Monet. Peintre français, Paris 1840, Giverny 1926. La vie à Argenteuil devenant trop chère, endetté, Monet est obligé de déménager en janvier 1878. Il laisse à son propriétaire en gage son tableau, le déjeuner sur l'herbe, sa toile roulée et reléguée au fond d'une cave. Il s'installe rue d'Édimbourg à Paris avec Camille et Jean jusqu'en août 1878. À près de 40 ans, Monet se retrouve dans la misère, implore ses amis, Manet, Durand-Ruel, Murer, le collectionneur, Zola, de lui envoyer de l'argent.
De plus en plus dur depuis avant-hier. Plus un sou et plus de crédit chez le boucher ni chez le boulanger. Quoique j'aie foi en l'avenir, vous voyez que le présent est bien pénible. Ne pouvez-vous pas m'envoyer par retour de courrier un billet de 20 francs? Cela me rendrait service pour le quart d'heure.
De plus, la famille vient de s'agrandir. En ce 17 mars, Michel, le second fils, voit le jour avec pour témoin, à la mairie du 8e, Édouard Manet, peintre, et Emmanuel Chabrier, musicien. Manet l'aide en lui achetant des tableaux. À cette époque, Claude Monet peint depuis deux balcons le 30 juin, la rue Montorgueil, jour de fête nationale au musée d'Orsay, et la rue Saint-Denis pavoisée, musée de Roy. À propos de ces toiles, il déclare
« À la première fête nationale du 30 juin, je me promenais avec mes instruments de travail rue Montorgueil. La rue était très pavoisée, avec un monde fou. J'avise un balcon, je monte, je demande la permission de peindre, elle m'est accordée. Puis je redescends. Incognito. Ah, c'était le bon temps, le beau temps. »
Ernest Ochédé, quant à lui, en totale faillite, vend sa collection de peintures à l'hôtel Drouot, début juin 1878. Les œuvres de Monet partent à un prix ridiculement bas. Heureusement qu'il existe quelques fervents défenseurs de l'impressionnisme. Théodore Duret, né en 1838, appartient à cette catégorie. Journaliste, critique d'art, introduit dans le milieu du réalisme, il découvre les impressionnistes, devient leur allié dans la presse, leur achète des œuvres ou leur prête de l'argent. En 1878, il publie « Les peintres impressionnistes » et raconte
« De tous ceux qu'on désigne ainsi, Monet est celui qui justifie le mieux l'appellation. Sa peinture ne réussit-elle pas, presque seule, à saisir les nuances de l'air, les multiples interactions entre le motif et l'atmosphère alentour, les reflets et la lumière particulière aux milieux aquatiques. » Véteuil.
En septembre 1878, Claude Monet emménage dans une petite maison à Véteuil, village dominant un méandre de la Seine à 60 km de Paris. Certainement, grâce au soutien de Manet, qui lui achète quelques tableaux et lui avance de l'argent.
« Mon cher Manet, je pense souvent à vous et à ce que je vous dois, et vous êtes réellement bien aimable de n'avoir pas encore réclamé cet argent qui doit vous faire défaut. »
La famille Ochédé et ses 6 enfants, ruinés par les spéculations sur l'art, vient rejoindre les Monet dans la même habitation insalubre. Ernest Ochédé paie le loyer. Camille Monet, malade depuis l'année précédente, reste faible. La naissance de Michel a aggravé un état de santé bien fragile. Pendant l'hiver, les deux familles s'installent dans une demeure un peu plus confortable. Ernest Ochédé reste souvent à Paris, laissant sa femme Alice et ses enfants avec les Monet. Claude en profite pour peindre Véteuil et ses rives de la Seine, parfois depuis son bateau-atelier. Il nous lègue ainsi Église de Véteuil sous la neige dans une tonalité gris-bleu au musée d'Orsay à Paris. La Seine à Véteuil est faite de soleil après la pluie, d'une luminosité saisissante où l'eau est toujours représentée par des touches fragmentées. Mais les conditions financières restent toujours précaires et très préoccupantes.
Je commence à ne plus être un débutant et il est triste d'être à mon âge dans une telle situation. Toujours obligé de demander, de solliciter une affaire. Je vis doublement mon infortune en ce moment de l'année et 79 va commencer comme cette année a fini, bien tristement pour les miens, surtout auxquels je ne puis faire le plus modeste présent. Nouvelle exposition.
La quatrième exposition des impressionnistes, organisée par Gustave Caillebotte, a lieu le 10 avril 1979 au 28 avenue de l'Opéra. Ayant cruellement besoin d'argent, Monet y participe avec 30 toiles, dont des tableaux de Vétheuil. Le journaliste Wolf, sarcastique, exclame :
Monsieur Monet envoie 30 paysages qu'on dirait faits en une après-midi.
Même Zola déclare qu'il ne faut plus compter sur Monet, qu'il a déçu tous les espoirs. Le peintre en est profondément blessé.
Quand la mort rôde.
Le 5 septembre 1979, Camille Doncieux-Monet, qui ne participe plus aux promenades familiales depuis la mi-mai, s'éteint d'un cancer de l'utérus à 32 ans, laissant deux garçonnets et un mari désemparés. Camille sera enterrée dans une fosse en pleine terre. Pas de faire-part, pas de témoin. Une tombe qui sera abandonnée. Son mari écrit au docteur de Bellieu :
Je suis consterné de me voir seul avec mes pauvres enfants. Je viens vous demander un nouveau service. Ce serait de faire retirer au Mont-de-Piété le médaillon dont je vous envoie la reconnaissance. C'est le seul souvenir que ma femme avait pu conserver et je voudrais pouvoir lui mettre au cou avant de partir.
Claude reprend ses pinceaux afin d'immortaliser une dernière fois Camille Monet sur son lit de mort, donnant ainsi une toile exposée au musée d'Orsay. Nous pouvons y observer le visage de Camille, les yeux fermés, enveloppé d'un linceul de tulle gris-bleu, ponctué de quelques touches jaunes, apportant une note de chaleur dans cette atmosphère glacée de la mort. Le visage est à peine esquissé, noyé sous le trait hachuré du peintre.
Bonjour tristesse.
Le décès de Camille laisse un grand vide. Le peintre confie ses deux enfants à Alice Auchédé, qui a soigné Camille pendant sa maladie. C'est elle aussi qui a pensé au prêtre. Elle a déjà pris une place importante dans la vie de Claude Monet. Leur liaison daterait de 75 ou 76 et se concrétisera par un mariage en 1892. Mais pour l'heure, leur situation familiale est des plus confuses, avec Ernest Auchédé souvent absent. Il passe de temps en temps pour partager les frais et reste à Vétheuil quand Monet se rend à Paris.
Voyage en terre de couleur.
L'automne et l'hiver qui arrivent sont particulièrement rigoureux. Paris est sous la neige, les transports cessent de fonctionner. Il fait moins 14 le 3 décembre, moins 23 le 9 décembre. Monet en profite pour peindre Vétheuil sous la neige et la Seine charriant des blocs de glace. C'est le début de l'embâcle. Après le défilé au flambeau du 24 décembre, sur la Seine gelée sur 30 cm, le 28, la température monte de 10 degrés. La débâcle est amorcée. La Seine charrie d'énormes blocs de glaçons, arrive à Vétheuil, emporte tout sur son passage. Monet est réveillé par une voisine frappant au volet. Affolement, le torrent passe devant sa maison, arrache clôture et arbres. Claude se met à peindre la débâcle. Les tableaux retranscrivent un univers froid, austère, solitaire, inanimé, à l'image des états d'âme de Monet en cette période. La débâcle sur la Seine, les glaçons, au musée d'Orsay, a appartenu au collectionneur Charles Effrussy. La débâcle, près de Vétheuil, Vétheuil dans le brouillard, au musée Marmottan, une toile plutôt froide, où le village à peine esquissé disparaît dans le brouillard. Cette œuvre fut achetée par l'artiste lyrique de l'Opéra de Paris, Jean-Baptiste Faure, qui la rapportera à son créateur. En effet, ses amis ne cessaient pas de lui faire remarquer que la toile était vide. De ce fait, Monet conservera le tableau jusqu'à son dernier souffle. Il exécute aussi à cette période de sa vie quelques natures mortes, des fleurs, chrysanthèmes à Orsay, des fruits, poires et raisins à Hambourg, natures mortes de gibier. Mais il n'en peignit que très peu. De même, les personnages vont devenir de plus en plus rares dans ses compositions. Le paysage sera désormais sa principale préoccupation.
Exposition au salon.
Monet ne va pas participer à la cinquième exposition des impressionnistes, ni Renoir, ni Sisley d'ailleurs. Quelques dissensions existent dans le groupe, notamment avec Degas.
Peut-on en savoir la teneur ?
Oh, une plaisanterie. Une annonce de très mauvais goût, encadrée de noir, signée Tout Paris, paraît le 24 janvier 80 dans Le Gaulois, faisant part des obsèques de Claude Monet à 10h du matin, le 1er mai, en l'église du Palais de l'Industrie, salon de M. Cabanel. De la part de M. Degasse, chef de l'école impressionniste, de M. Raffaelli, successeur du défunt, de Marie Cassatt, Caillebotte, Pissarro, entre autres. La rupture est proclamée. Sur les conseils de Renoir, il envoie deux toiles au salon officiel, délaissé depuis 70. Les glaçons est refusé. L'autre tableau accepté est accroché en très mauvaise place. Un paysage de Lavacour, au musée des arts de Dallas. L'œuvre passe inaperçue. Personne ne daigne lever la tête. Pourtant, Monet a repris un style plus académique, plus réaliste, plus conforme aux règles du salon. Les touches fragmentées se fondent entre elles. La facture est plus lisse. D'ailleurs, Claude en parle à Durer le 8 mars en ces termes.
Pour le salon, j'ai dû faire une chose plus sage, plus bourgeoise.
Un troisième tableau ne sera pas présenté. Soleil couchant sur la Seine à Lavacour, au musée du Petit Palais à Paris. D'une facture plus hardie. Monet ne souhaite pas revenir dans le groupe des impressionnistes. Renoir le présente alors à Charpentier. Georges Charpentier, l'éditeur, organise la première exposition particulière en juin 80 des œuvres de Claude Monet dans la Galerie de la Vie Moderne. 18 toiles y sont présentées, dont le catalogue est préfacé par Théodore Durer. La grande débâcle est achetée par Madame Charpentier, 1500 francs. Fervent défenseur de la nouvelle peinture, Durer écrivait dans les peintres impressionnistes de 78.
Si le mot d'impressionniste a été trouvé bon et définitivement accepté pour désigner un groupe de peintres, ce sont certainement les particularités de la peinture de Claude Monet qui l'ont d'abord suggéré. Claude Monet a réussi à fixer les impressions fugitives que les peintres, ses devanciers, avaient négligées ou considérées comme impossibles à rendre par le pinceau.
Monet réussit à vendre quelques tableaux et de ce fait peut rembourser ses dettes. Un peu d'espoir renaît, même si l'exposition suivante de la Société des Amis des Arts du Havre est un échec en août 80. Il sillonne encore la côte normande. Paul Durand-Ruel lui achète de nouveau des tableaux, 15 en février 81, 22 en mai, 16 en octobre, 7 en novembre. Claude va alors refuser de brader ses toiles à ses soutiens habituels, tels Effrussi, Durer, Faure, de Béliot. Il s'éloigne aussi du groupe impressionniste en ignorant la 6e édition de 81.
Voyage en terre de couleur, les impressionnistes.
Durant les derniers mois passés à Vétheuil, il nous lègue une œuvre riche en couleurs et lumières, le jardin de l'artiste à Vétheuil, National Gallery of Art, Washington. C'est un jardin ensoleillé, éblouissant de couleurs, où deux silhouettes d'enfants stationnent dans l'allée, bordées de tournesols resplendissants. Revenons quelques années en arrière, du côté de la gare Saint-Lazare.
Du côté du musée.
De retour à Paris en 77, dans un atelier loué par Caillebotte au 17 rue Moncey, Claude Monet va exécuter plusieurs vues de la gare Saint-Lazare, dont 8 seront présentées à la 3e exposition de 77 chez Paul Durand-Ruel, parmi les 30 toiles proposées. Il est un habitué de cette gare qui le mène à Argenteuil. Il saisit le tout d'un seul coup de pinceau, la verrière, les bâtiments, hangars, locomotives, fumées, sans oublier la lumière. Saint-Lazare est un témoin de cette industrialisation en marche, de cette modernité où le verre côtoie le métal. Monet obtient du directeur de la gare que les trains soient arrêtés, les quais évacués et les locomotives en marche afin de peindre dans le recueillement nécessaire. Émile Zola écrit dans le Sémaphore de Marseille d'avril 77.
Monsieur Claude Monet est la personnalité la plus accentuée du groupe. Il a exposé cette année des intérieurs de gare superbes. On y entend le grondement des trains qui s'engouffrent. On y voit des débordements de fumée qui roulent sous les vastes hangars. Là est aujourd'hui la peinture, dans ces cadres modernes d'une si belle largeur. Nos artistes doivent trouver la poésie des gares, comme leurs pères ont trouvé celle des forêts et des fleuves.
Nous pouvons admirer la gare Saint-Lazare à Orsay à Paris. Une autre, la gare Saint-Lazare arrivée d'un train à Cambridge. Ou le pont de l'Europe, gare Saint-Lazare, au musée Marmottan à Paris. Notre voyage se termine pour aujourd'hui sur le passage à Vétheuil. Je vous invite à le poursuivre très prochainement sur cette même antenne, vers d'autres lieux. Voyage en terre de couleurs, un programme Maurice Clément Fèvre, technique, participation, Pascal Laurière.